les énergies dans Chamonix.
Bonjour à vous, si vous venez d'arriver, vous êtes bien sur Globule Radio 90.5 FM, la radio locale de Chamonix.
Sur cette radio, nous vous parlons généralement des infos locales.
Nous diffusions cette radio à Chamonix, sur la place de Cham Sud.
Nous sommes des élèves du collège Jeanne d'Arc à Chamonix. On est quatre, Timmy, Baptiste, Tao et moi Rémi. Nous avons 14 ans. On est ici grâce à notre prof de français, Madame Mère et Madame Martin, professeur documentaliste. Car nous faisons un projet avec Globule Radio.
Nous allons parler de l'énergie dans la vallée de Chamonix pendant une heure. Si vous voulez réécouter nos émissions, elles sont sur le site de Globule Radio, www.globuleradio.chamonix.
Maintenant, je vais laisser la parole à Baptiste qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Baptiste. Je suis au collège Jeanne d'Arc de Chamonix en classe de 4e A. J'aime le ski, le vélo et les jeux vidéo. Je vais maintenant passer la parole à Timmy qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Timmy, j'ai 14 ans et j'adore le ski. Et maintenant, je passe la parole à Tao qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Tao, j'ai 14 ans, ma passion c'est les voitures et maintenant je vais passer la parole à Rémi qui va se présenter à son tour.
Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 14 ans, j'aime le ski et le foot. Maintenant, je vais vous laisser écouter la musique Cupid de 50/50. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Avec les fous de l'énergie de l'école Jeanne d'Arc, aujourd'hui le thème de cette émission est sur l'énergie et ses conventions. Et maintenant, on vous emmène, Tao et moi, dans le monde des pisteurs. Salut, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que t'es devenu ?
Salut, eh bien tu ne devineras jamais ce que je fais maintenant. Je suis devenu pisteur dans la vallée de Chamonix.
Sérieux ? C'est génial. Je me souviens quand tu étais passionné par la montagne et le ski. Comment ça se passe en tant que pisteur ?
C'est vraiment incroyable. Être pisteur à Chamonix est un mélange de passion, d'aventure et de responsabilité. Chaque jour, je m'assure que les pistes sont sécurisées et prêtes à accueillir les skieurs. Je vérifie les conditions météorologiques, prépare les avalanches contrôlées et assure la signalisation sur les pistes.
Waouh, c'est un travail vraiment important et exigeant. Je suis impressionné par ton engagement. Qu'est-ce qui t'a poussé pour devenir pisteur ?
Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été fasciné par la montagne. J'ai grandi en pratiquant le ski et cela a éveillé en moi une passion pour ce milieu naturel. Je voulais contribuer à la sécurité des skieurs et partager ma passion avec eux. Être pisteur me permet de vivre de ma passion au quotidien tout en assurant la sécurité des autres.
C'est vraiment admirable. Je suis sûr que c'est un travail gratifiant. Mais cela doit comporter aussi son lot de défis, non ?
Absolument. La météo changeante, les risques d'avalanche et situations imprévues sont des défis constants. Mais c'est justement cela qui rend ce travail si stimulant. Chaque jour est différent et je dois prendre des décisions rapides et avisées pour garantir la sécurité de tous.
Je suis sûr que ça demande beaucoup de compétences et de connaissances spécifiques. As-tu suivi une formation spéciale pour devenir pisteur ?
Oui, j'ai suivi une formation approfondie pour devenir pisteur. J'ai appris à évaluer les risques d'avalanche, à utiliser le matériel de sécurité et à effectuer les secours en montagne. J'ai également acquis des connaissances sur la météo, la neige et les premiers soins. La formation est essentielle pour être prêt à affronter toutes les situations.
C'est vraiment intéressant. Je n'imagine pas à quel point être pisteur demande autant de compétences techniques et de connaissances spécifiques. Je suis vraiment fier de toi et de ce que tu fais.
Merci, c'est gentil, c'est un travail que j'aime profondément, malgré les défis. C'est gratifiant de savoir que je peux contribuer à rendre l'expérience des skieurs plus sûre et plus agréable.
Je suis sûr que ça te fait du bon travail. Je te souhaite bonne chance dans ta carrière de pisteur à Chamonix. J'espère avoir l'occasion de te rejoindre un jour sur les pistes.
C'est ainsi qu'on se dit au revoir. Se retrouver plus tard, pas très loin d'ici. Au paradis, où les dieux et les fées font d'un bal endeuillé la plus belle des orgies. Une énergie au loin, sous un soleil malin, on se retrouve ici. Cette énergie de loin, c'est le vent du matin qui t'a emmené ici. Ça se passe ainsi. Diable et le lutin seront tous endormis au paradis. Les anges retirent nos vestes, nos habits de tristesse. Regarde, il te sourit.
C'était une énergie de Icar. Et vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix, avec les fous de l'énergie de l'école Jeanne d'Arc. Et maintenant, je vais laisser la parole à Timmy qui va présenter son interview.
Pour mon interview, j'ai eu le plaisir d'interviewer le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc, Mathieu de Chavannes, qui va nous parler de l'énergie utilisée dans les stations de ski. Et pour commencer, je lui ai demandé quel était son métier.
Les énergies dans Chamonix.
Alors moi, mon métier, c'est de gérer des entreprises de remontée mécanique. Et donc, il y a des infrastructures, il y a surtout du personnel. Et puis, il faut négocier des contrats pour avoir le droit de gérer tout ça. Et il faut faire le lien avec des fournisseurs, avec des actionnaires, avec pas mal de monde. Donc c'est un métier, il faut être polyvalent. Voilà.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie dans les stations de ski. Pourriez-vous nous expliquer quelle est l'énergie utilisée dans les remontées mécaniques de la vallée ?
Alors l'énergie qui est utilisée pour une remontée mécanique, c'est de l'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, sur nos domaines, quand on consomme un facteur de 2, par exemple, pour de l'allumage dans un bâtiment, on consomme un facteur de 4 pour du chauffage dans ces bâtiments et un facteur de 7 pour l'énergie pour les remontées mécaniques. Donc le poste le plus consommateur, c'est l'énergie dont a besoin une remontée mécanique, mais elle est électrique. Et par rapport à ça, donc le prix de l'énergie, je pense qu'on va en reparler, mais envolé depuis la guerre en Ukraine. Et on a une autre type d'énergie dont on a besoin, c'est du carburant pour les dameuses, puisque les dameuses consomment, on va dire, une trentaine de litres par heure. Et là, on est en train de changer, avec beaucoup de succès d'ailleurs, ce carburant par de l'huile, qu'on appelle de l'huile de friture, du HVO, qui lui a un bilan carbone qui est très 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 faible, quasiment nul. Donc c'est une grosse avancée pour nous. On paye ce carburant beaucoup plus cher, ces huiles de friture, mais c'est très très bénéfique en termes de pollution.
Pensez-vous qu'un jour nous allons manquer de cette énergie ? Y a-t-il des alternatives pour cette énergie ?
Alors l'énergie électrique, je pense pas qu'on va en manquer, j'espère, parce qu'autrement on sera tous dans grande difficulté, même à titre personnel. Par contre, nous, notre rôle, notre mission, c'est de faire en sorte qu'on en consomme le moins possible et qu'elle soit la plus propre possible. Donc on achète de l'électricité qui provient de, qu'on appelle ça verte, qui vient de barrages hydroélectriques. On la paye un peu plus cher, mais c'est de l'énergie, de l'électricité le plus possible verte. Et puis, les alternatives, c'est par rapport au carburant, c'est ce que je vous disais, c'est utiliser notamment ce carburant HVO qui est plus du tout carboné et qui fait s'effondrer notre bilan carbone, puisqu'un bilan carbone, il faut le savoir, d'une station de ski, quand quelqu'un vient chez nous, c'est environ c'est 3%. Donc c'est faible, parce que le plus gros du bilan carbone d'un visiteur qui vient à la montagne, c'est son trajet. Quand il vient ici en voiture, à une ou deux personnes, grosso modo, on est à 55% du bilan global de sa semaine, ça va être son transport pour venir à la station. Quand il vient en train, ce 55%, il tombe à 8%. Donc nous, il faut qu'on travaille avec les collectivités pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de transport public qui soit utilisé au détriment de la voiture pour venir. Mais une fois qu'il est chez nous, on a juste un bilan carbone de 3%. Pourquoi ? Parce que, voilà, je vous l'ai expliqué, l'installation, elle tourne à l'électricité, donc ça rejette rien. Et sur ces 3%, notre gros point noir, c'est la consommation des dameuses. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce carburant HVO qui améliore grandement la performance.
Et en ce qui concerne les canons à neige, pourriez-vous nous expliquer quelle énergie est utilisée ?
Alors un canon à neige, c'est de l'électricité et de l'eau. Donc il y a un système de compresseur avec des pompes et on propulse de l'eau et de l'air. Et grosso modo, plus il fait froid et sec, plus le rendement du canon à neige est important. Alors ici dans la vallée, On a un taux de couverture de canons à neige de 19%. C'est bien en dessous de ce qu'est la moyenne nationale, qui je crois est à 40%. Et par exemple, dans les stations d'Autriche, c'est 70%. Alors, nous, on n'a pas vocation à augmenter ce pourcentage-là. Et on prend l'eau, c'est la particularité, sous des captages glaciaires. Je vais vous donner une info, par exemple, sur le site des Grands Montais, on prend l'eau pour les canons à neige sur le domaine, on prend 100 000 mètres cubes d'eau par an, sur un total de 60 millions de mètres cubes qui sont récupérés sous le captage glaciaire. Donc c'est une part infinitésimale de ce que produit le glaciaire.
Vous êtes toujours bien sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. On vient d'écouter la première partie de l'interview de Timmy. Et maintenant, on va écouter What a Wonderful World by Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Pour la deuxième partie, j'ai demandé à Mathieu de Chavannes, qui est PDG de la Compagnie du Mont-Blanc, « Savez-vous s'il y a une augmentation du besoin de neige artificielle ces dernières années ?»
Alors oui, la neige artificielle, c'est vrai que c'est un outil. C'est un outil pour sécuriser un enneigement, un domaine, des parties basses ou lorsqu'il y a beaucoup de passages, parce qu'elle a une bien meilleure résistance à la tenue que la neige naturelle. Pour autant, les skieurs, ils préfèrent largement skier sur de la neige naturelle. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Donc voilà, il faut s'en servir comme un outil. Faut le faire avec parcimonie. C'est pour ça que nous, on est plutôt contents à 19%. On est dans les taux bas de la profession. On a de la chance, on a des domaines d'altitude. Faut pas en abuser. Et ça devient de plus en plus difficile à gérer parce qu'il faut saisir les créneaux de froid, en fait, pour produire. Et ces créneaux de froid, ils ont tendance à se réduire avec le réchauffement climatique. Donc il faut avoir, on travaille surtout sur avoir la bonne technologie qui nous permet de pouvoir produire à 1 degré de moins que ce qu'on pouvait le faire il y a quelques années pour un rendement qui soit le meilleur possible.
Pensez-vous qu'il y aura toujours suffisamment d'énergie pour créer de la neige artificielle ?
Alors encore une fois, l'énergie pour la neige artificielle, c'est de l'électricité. Donc j'espère qu'il y en a. L'enjeu, il est plus sur l'eau. Est-ce qu'on aura toujours assez d'eau pour le faire ? Alors, je vous l'ai expliqué, dans la vallée, nous, on prend 100 000 mètres cubes d'eau sur 60 millions. Donc, je pense que si on montait à 120 000 mètres cubes, ça ne changerait pas grand-chose au niveau du captage glaciaire. Pour autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions au niveau national sur l'utilisation de l'eau pour ces canons. Il faut savoir quand même que l'eau, elle est prise dans des... il faut faire des réserves d'eau comme on a la Flégère. Des petites retenues collinaires. Celle-là, elle fait 27 000 mètres cubes. Elle est petite. Il y a des stations qu'on a des très, très grandes, bien plus grandes que ça. Ça, c'est, il y a un sujet par rapport à ça. Et cette eau, en fait, on la rejette sur le même versant que, où elle est censée s'écouler. Donc, voilà. Faut être attentif, on l'est à ces problématiques-là. Mais encore une fois, nous, ici, on est dans la gestion minimaliste de l'utilisation des canons à neige.
Pensez-vous qu'il faudra fermer certaines stations de ski à cause du réchauffement climatique? Et quelle est votre vision pour Chamonix?
Alors, malheureusement, le réchauffement climatique, il est là, ça c'est indéniable. Et il fait que, oui, il y a moins de neige, on constate, hein, 800 mètres d'altitude qu'il a pu en avoir il y a une vingtaine d'années. Donc en fait, il y aura des stations qui vont devoir fermer, ça c'est inéluctable. Et ce qu'on essaye de faire tous, et puis après j'en reviendrai à Chamonix, mais on utilise la science pour ça. Il y a une société qui s'appelle ClimSnow qui a été faite, fondée avec deux chercheurs du GIEC, hein, qui travaillent pour les rapports du GIEC, et qui, eux, font des simulations à 30 ans pour des domaines en disant bah, voilà ce qu'il devrait y avoir au niveau météo, au niveau pluviométrie et froid. Et ça, c'est un outil très intéressant pour prendre les décisions pour les élus, les exploitants, sur le futur d'une station. Alors nous, à Chamonix, on a le CREA qui nous a fait des études comme ça. Donc, ce n'est pas une grande surprise. Comme la plupart des domaines, ils sont à plus de 2000 mètres d'altitude. On a une durée de vie au moins 30 ans. Donc, on pourra faire du ski à Chamonix. Ça sera peut-être même le dernier endroit où on pourra en faire, hein, très long terme. Mais voilà, pour autant, il faut tenir compte de ces problématiques-là. Gérer les pistes, faire en sorte qu'on fasse des petits travaux de piste pour qu'on ait besoin de moins de neige possible pour pouvoir skier, tout en préservant le paysage, chose à laquelle on est très attaché.
Pensez-vous qu'il y a de la surconsommation d'énergie dans les stations de la vallée?
Dans les stations de la vallée? Nous, en tout cas, on avait... Alors, pour ce qui concerne la compagnie Mont-Blanc, on s'était fixé comme objectif, c'était très très ambitieux l'année dernière, de baisser de 10% notre consommation énergétique. On n'y est pas arrivé, mais on a fait 7%, et franchement, c'est un très bon résultat, parce que c'était vraiment très, très, très ambitieux, et qu'on a des nouvelles installations, type la télécabine du Tour, par exemple, et bien la télécabine du Tour, elle consomme 30% de plus que l'ancienne. Voilà. Donc, quand on cumule tout ça, on a fait un bon résultat, et on va continuer de s'améliorer, parce qu'on est très, très attentif à ces problématiques. Ça a non seulement un coût, mais c'est notre responsabilité aussi d'avoir l'impact le plus faible possible.
Pour finir, qu'est-ce que la Compagnie du Mont-Blanc prévoit pour maintenir le ski ces prochaines années?
Ben, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des travaux de piste pour essayer d'avoir le moins de neige possible pour ouvrir les domaines. On modernise nos quelques équipements de neige de culture, parce que la technologie a évolué, donc autant capitaliser dessus, hein, avec des équipements. On fait en sorte qu'il y ait le moins de fuites possible sur les tuyaux, ça c'est pareil, ça demande de changer des canalisations. Et puis, on utilise des outils sur les dameuses maintenant, des radars, qui permettent aux dameurs en fait, de savoir précisément la couche qu'il a en dessous de la machine, et donc de mettre de la neige au bon endroit, au bon moment, et pas d'accumuler trop de neige à certains endroits où finalement il y en avait déjà beaucoup, où on n'en a pas besoin de plus. Voilà, donc la technologie est un vrai outil pour gérer ces problématiques-là. Et puis quant au reste, bah voilà, on travaille avec les laboratoires dont je vous ai parlé, le CREA, d'autres, pour être vigilant, et puis le maître mot, c'est s'adapter. Voilà, on s'adaptera et on fera en sorte que en ayant le moindre...
Les énergies dans Chamonix.
Vous êtes toujours sur Global Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Le thème de cette émission est l'énergie et ses conversions. Et maintenant, nous allons écouter Uptown Funky Wop de Mark Ronson et Bruno Mars. Do 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 do
pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Excusez-moi, en fait, on va passer une heure d'abord.
I was at a show, backstage untying my shoes. There was your friend from Wire Image, standing beside her with you. An eagle told me don't do it, my nice image would go up in fumes. The head without the ears hurted, so you end up in my room. Texting me 100 times, calling me 100 times, hope it is not you this time. Damn, my God, it changed my life. Texting me, you're gonna die. Call a psychiatric lie. Friends and family should know I'm reporting this as a crime.
I bet you heard this song, wonder who I'm talking about. I said, I bet you heard this song, wonder who I'm talking about. I bet you heard this song, wonder who I'm talking about. I bet you heard this song, wonder who I'm talking about. You! Frustrated nights, emails that could evoke tears.
I like you, I like you, I love you, I think I'm dying.
My friend asked me for your email address. She said she'd take it from here. She said she'd try to walk you through the picture.
He doesn't like you.
For you, nothing is clear. Now she too is frustrated. That's been a year. Texting me 100 times, calling me 100 times. Hope it is not you this time. Damn, my God, it changed my life. Texting me, you're gonna die. Call a psychiatric lie. Friends and family should know I'm reporting this as a crime. I bet you heard this song, wonder who I'm talking about. I said, I bet you heard this song, wonder who I'm talking about. I bet you heard the song, wonder who I'm talking about. I bet you heard the song, wonder who I'm talking about. You.
This song, I hope your thought process evolves. It's not what's your reasoning that's wrong? Is that deep down everything is gone? The place is empty, no lights on. Instead happiness should be sprawled across the face of your heart's wall. But you'll press pause and you'll just call.
Les énergies dans Chamonix.
Vous êtes toujours sur Globule Radio et maintenant on va écouter la chronique de Baptiste et Tao sur le mégapole de Neom.
Des Jeux Olympiques d'hiver en plein désert. La mégapole de Neom, un projet de construction en plein désert. C'est en Arabie Saoudite que vont se dérouler la 9e édition des Jeux Olympiques d'hiver asiatiques. En 2029, la ville futuriste de Trojena va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques. Trojena est l'une des trois villes de la mégapole de Neom. Elle se trouvera dans les montagnes de Trojena et sera composée de pistes de ski, d'hôtels de luxe, de chalets, de villas et plein d'autres choses.
Quelles sont les conséquences écologiques provoquées par ce projet ?
Cette mégapole, nommée Neom, sera composée de trois villes, Oxagon, The Line et Trojena. Cette construction demandera beaucoup d'énergie et de pétrole, donc forcément une grande pollution pour l'environnement du désert. Mais il y a des points positifs sur ce massif montagneux de Trojena. Les températures descendent en dessous de 0 degré l'hiver. Le seul problème, c'est le manque de précipitations sur ces montagnes. Nous sommes quand même en plein désert, donc les précipitations se font rares. Mais la construction de cette ville va détruire une grande partie de l'écosystème environnant.
Comment vont-ils héberger les athlètes ?
La construction de cette mégapole, Neom, pourra héberger les athlètes dans la ville de Trojena. Cette ville pourra accueillir tous les athlètes avec une capacité de 250 000 personnes. Cependant, cette ville est encore inexistante aujourd'hui, et il y a des années d'attente avant qu'elle puisse enfin voir le jour. Au final, cette ville coûtera 510 millions de dollars.
Comment vont-ils créer la neige pour les pistes ?
C'est une question que se pose beaucoup de monde. C'est vrai qu'en plein désert, la neige se fait rare. Ils vont donc la créer artificiellement. Nous avons appris récemment que les températures au sommet des montagnes de Trojena descendaient en dessous de 0 degré pendant l'hiver. Et pendant l'essai, elles restaient en dessous de 10 degrés. Ce projet semble complètement fou et pas en accord avec la crise environnementale actuelle.
Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix, avec les fous de l'énergie de l'école Jeanne d'Arc. Maintenant, on rencontre Canditovex avec Timmy et Baptiste.
Ne vous êtes-vous jamais demandé comment Canditovex est devenue la légende du freestyle ?
Canditovex est né à Annecy en 1982. Il a grandi dans le milieu du ski et s'est inscrit au ski de boss à 5 ans. À ses 15 ans, il commence pleinement le freestyle et commence à se faire remarquer en enchaînant les podiums et surtout les victoires aux X Games, une compétition très connue dans le milieu du freestyle.
Et comment s'est-il fait connaître en dehors de ce milieu assez fermé du freestyle ?
Il s'est fait remarquer par le public en enchaînant les victoires et en imposant son style inoubliable. En plus de ça, il a été le premier à replaquer des figures, mais surtout, il a créé la série de films One of Those Days, qui a atteint plus de 43 millions de vues sur YouTube, grâce à leur contenu inoubliable. Vous l'avez sûrement vu.
Effectivement, on a tous déjà vu une de ses vidéos. Mais cette passion lui permet-elle de gagner sa vie ?
Oui, il gagne sa vie en créant des vidéos qui sont connues par le monde entier. Il a aussi créé sa marque de vêtements de ski, Candid.co.
Tu as l'air de beaucoup l'apprécier. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans sa carrière ?
Il est le premier à replaquer le Chad's Gaps, un saut de presque 40 mètres de long, avec 12 mètres de vide en dessous. Vous vous rendez compte ? C'est aussi une source d'inspiration chez les jeunes riders, avec son style incroyable. Il représente la mode pour les jeunes. Il a aussi créé plein de films irréalistes et il a marqué l'histoire française avec toutes ses victoires en compétition de freestyle, mais aussi de freeride. Il a remporté le Red Bull Line Catcher, l'étape de Chamonix du Freeride World Tour et le titre de champion du monde de freeride. C'est énorme!
When you finally let go.
les énergies dans Chamonix.
On vient d'écouter Better When I'm Dancing et vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Avec les fous de l'énergie de l'école Jeanne d'Arc, aujourd'hui, le thème de cette émission est sur l'énergie et ses conventions. Et nous allons maintenant écouter Happy de Pharrell Williams.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry pops, you'll just have to wait. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. Just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, cause I ain't going anywhere. No, 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 no.
Mais Rémi, c'est n'importe quoi, c'était pas Happy.
Désolé Timmy, je me suis trompé, c'était The Lazy Song de Bruno Mars. Tu m'en veux pas ?
Non.
Maintenant, on va faire ma chronique personnelle. Les ours polaires sont en grave danger. Qui voudrait d'une planète sans ces animaux si majestueux ? Selon une étude d'Union internationale pour la conservation de la nature, ils pourraient avoir disparu en 2100. Ils sont victimes du réchauffement climatique et de la pollution et de la chasse.
Peux-tu nous expliquer en quoi le réchauffement climatique serait une menace pour les ours ?
L'ours vit dans les eaux glacées de l'Arctique. Dans son habitat, la glace réduit dangereusement. Pour quelle raison ? Le réchauffement climatique, qui en Arctique est jusqu'à 4 fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde, l'ours mange des phoques, 50 par an. Mais dans l'été, la banquise peut fondre complètement. Alors, comme il n'y a plus de phoques, ils sont obligés de manger des poissons, des ours, des plantes. Mais ceux-ci ne sont pas assez caloriques et l'ours doit puiser dans ses réserves de graisse. La mer ne produit pas non plus de lait d'assez bonne qualité pour les petits. On a même observé des cas de cannibalisme.
Ah bon ? Et le réchauffement climatique a-t-il d'autres conséquences sur les ours ?
Les maladies sont rares chez les ours, mais la hausse de température signifie qu'ils sont maintenant exposés à de nouvelles maladies. De nouveaux parasites se développent dans les organismes à cause de la température plus chaude. Le système immunitaire des ours n'est pas assez développé pour combattre ces nouvelles infections.
En dehors du réchauffement climatique, y a-t-il d'autres menaces pour les ours ?
Les pollutions survolent l'Arctique via les transports aériens et océaniques. La pollution ne se dégrade pas. Les phoques sont aussi touchés directement par cette pollution, ce qui contamine les ours. La chasse est également une réelle menace pour les ours. D'après O.L. Linden, auteur de Polar Bear et Humain, depuis 1960, plus de 5000 ours polaires ont été tués par des chasseurs. La peau d'une ours polaire peut se vendre jusqu'à 85 000 $. J'espère vraiment vous avoir appris 2-3 trucs sur les ours polaires.
Les énergies dans Chamonix.
Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, la radio de la vallée de Chamonix. Avec les fous de l'énergie de l'école Jeanne d'Arc, le thème de cette émission est sur l'énergie et ses conventions. Nous allons maintenant écouter l'interview de Tao et de Baptiste.
Bonjour Tao, je vais très bien, je te remercie. Et bah, écoute, je suis heureux de te revoir suite à ton stage en fait. Hein.
Nous sommes aujourd'hui avec vous pour parler de votre entreprise qui est unique en Haute-Savoie, voire même en France si je me souviens bien. En quoi consiste votre entreprise ? Comment vous êtes venu l'idée ?
Alors, je me présente à mon tour, Nicolas Payen, fondateur de l'atelier 314, donc que j'ai créé en 2018. Et puis, donc ça fait maintenant 5 ans. Et puis, voilà, cette entreprise que j'ai mis en place, et ben, elle consiste à motoriser des vélos en vélo électrique unique et sur mesure. Donc, ben, effectivement, sûrement qu'en Haute-Savoie, je dois être quasiment le seul à faire sur plusieurs modèles de vélos, sur plusieurs types de motorisation, cartographie, etc. Mais en France, on doit être peut-être 4 ou 5, voilà. Après, cette idée m'est venue sur mon vélo, en fait, que j'ai transformé en électrique. Et puis, bon, qui a fait fureur, entre guillemets, je pense, par rapport à certaines personnes. Et puis, petit à petit, voilà, l'idée est venue de motoriser de plus en plus de vélos et de créer mon entreprise. Voilà. Donc, je suis électromécanicien, voilà, avec certaines connaissances qui me permettent d'aboutir de plus en plus de projets, toujours nouveaux. Donc, c'est ça qui me plaît, c'est que je m'adapte à chaque budget, chaque géométrie de vélo et pour tout type de personnes. Voilà. L'idée, c'est de pratiquer le sport. Et puis voilà, je fais toujours... en sorte que le client soit bien sur son vélo et que le matériel que je lui installe dessus s'adapte en fonction de ses besoins.
Pourquoi vous avez voulu faire ce métier ?
Alors, ce métier, je l'ai fait, c'est suite à une reconversion professionnelle. Après, oui, effectivement, ce qui me sauve, c'est que j'avais pas mal de connaissances en mécanique, en électricité, etc. J'ai toujours aimé démonter, remonter, comprendre les pannes, même créer des pannes moi-même pour savoir les réparer moi-même, en fait. Puis, on en apprend tous les jours. Et donc, je suis une personne, on va dire, plutôt autodidacte. Et ce qui me permet de mettre mes talents en avant et toujours de m'améliorer. Puis voilà, et puis je vis de ma passion, c'est vraiment une activité qui me plaît, et puis je souhaite de plus en plus la développer.
Est-ce que vous pensez que votre métier va plus se développer plus tard, et est-ce que les vélos électriques, c'est vraiment un gros avenir ?
Alors oui, les vélos électriques, bien sûr, c'est l'avenir. Après, il faut savoir que voilà, ça monte en flèche. Sur le marché, il y a tout type de vélos qui sont en vente. Il y a des vélos électriques à partir de 500-600 €, mais il y a aussi des vélos très haut de gamme, carbone, électrique, qui vont à plus de 10 000. Donc l'idée, moi je me suis mis au milieu de ce marché pour essayer d'avoir des prix corrects, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans un vélo à 8 000 ou 10 000. Et justement, il y a encore de nombreuses personnes qui sont bien sur leur vélo, qui ont des vélos quasiment neufs encore, et qui sont bien dessus. Donc ça, après, c'est personnel. Et qui souhaitent leur offrir une deuxième vie, une seconde vie, donc en électrique. Et je trouve ça très bien pour le recyclage, tout ça, pour l'environnement, plutôt que de racheter un nouveau vélo, etc.
Est-ce que c'est possible de transformer tout type de vélo en vélo électrique?
Alors, oui, c'est possible. Bon, on va dire que j'arrive à motoriser 90% des vélos, que ce soit du vélo alu, du carbone, etc. Après, moi, ma priorité, c'est de contrôler, vérifier, faire une étude pour chaque vélo, savoir si le vélo est compatible à la motorisation. Et après, je prendrai mes dispositions, donc essentiellement pour les vélos carbone, qui eux sont beaucoup plus fragiles et qui demandent beaucoup plus de temps, etc., à mettre des renforts spéciaux. La priorité aussi, ça va être le freinage. Donc voilà, chaque vélo qui sort de l'atelier aura un bon freinage. Et puis, très important, voilà, chaque vélo qui sort de l'atelier ressort à 25 km/h. Donc, avec assistance électrique au pédalage obligatoire. Si un client vient pour motoriser un vélo neuf, non seulement je garantis mon matériel installé de 2 ans, ainsi que son vélo. Voilà, parce qu'effectivement, dès l'instant que nous lui ajoutons une motorisation, il perdra la garantie constructeur que moi je reprends derrière. Donc, ce qui permet d'assurer ma garantie et mon SAV à la hauteur.
Quel est votre type de clientèle principalement ?
Alors, mon type de clientèle, je pense que j'ai à peu près tous les âges en fait, hein, aussi bien des personnes retraitées que des jeunes, que voilà, des personnes à mobilité réduite, des personnes en surpoids, etc. Et moi justement, ce qui me plaît dans mon concept, c'est que je m'adapte à chaque personne. Donc voilà, quand je prends l'exemple d'une personne retraitée, elle a pu faire du vélo toute sa vie et puis il arrive un moment où on y arrive un petit peu moins. Donc le fait d'y ajouter une motorisation électrique dessus, c'est beaucoup plus avantageux à faire moins d'efforts, mais à continuer quand même de pratiquer et de faire du sport. Voilà. Donc, ce qui est très bon pour la santé, de rester en mouvement. Après, les personnes un peu plus jeunes, ça peut être aussi pour des gens qui ne prennent plus la voiture et d'aller au travail en vélo électrique, justement. Dans le secteur de trentaines de kilomètres. Donc l'idée, c'est de s'adapter aux besoins de chacun et à tout type de personnes. Les personnes à mobilité réduite pour qui j'ai fait quelques vélos, c'était de très beaux projets. Et donc, pour les aider justement à pratiquer le sport et justement de rester en mouvement. Je prends l'exemple d'une dame qui était paralysée du côté droit et je lui avais fait un montage vraiment spécifique en fonction de ses besoins et puis elle était très heureuse. Donc, c'est ce qui me plaît, c'est que chaque client qui ressort de l'atelier avec le sourire, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir, quoi. Voilà. Et j'espère continuer comme ça. Là, la saison se réveille un petit peu et puis espérons faire de plus en plus de vélos. Voilà.
Voilà notre émission autour du ski, de l'énergie, de ses conventions et de l'environnement se termine. On espère que ça vous a plu. N'hésite pas à nous réécouter sur globule.chamonix.radio. Merci à vous les auditeurs et merci à Timmy, Tao et Baptiste.
Et merci à toi Rémi. On termine en musique avec Énergie de Sampa the Great.